Une partie de poker par Henri de Golaine. Chapitre 1er. Nous prenions ce soir-là café et liqueur sous les ombrages voluptueux des arbres du château de Madrid, en plein cœur du bois de Boulogne. C'était après un dîner cordial qui réunissait des hommes de professions diverses, que les hasards de la vie avaient séparés mais entre lesquels subsistait le lien charmant des souvenirs de jeunesse. Deux fois l'an, nous nous retrouvions ainsi avec un égal plaisir. Cette fois, notre dîner amical avait recelé un trait hors du commun. Notre camarade Gaston de Martret, absent de France depuis plus de 15 années, était des nôtres. Il avait vécu en mission spéciale dans les Balkans et le Proche-Orient durant cette longue période. À l'heure du cigare, il s'allongea dans un rocking. Quelqu'un proposa un poker. Notre ami refusa avec une sorte d'effroi. « Je n'ai pas joué au poker depuis mon départ de France, » déclara-t-il simplement. « Je n'y jouerai plus jamais. Ce jeu me rappelle un épisode tragique de mon existence. » »« Allons, de Martret, un verre de cette vieille fine, et contez-nous votre aventure. » Chapitre 2e. En mai 1910 et quelques, commença de Martret. J'étais totalement ruiné. Spéculation malheureuse, jeu, toute la lire. Il me restait pour toute ressource les meubles garnissant mon appartement de la rue Vaneau. Au total et au mieux, 10 000 francs. Après, plus rien. Pourtant, un matin, en passant devant la porte du 75 de la rue de l'Université, j'eus une idée. « Ça ne vous dit rien, ce numéro 75 de la rue de l'Université ?»« Non. C'est le siège du 2e bureau de l'état-major général de l'armée, le service du contre-espionnage. » Une fois entré sous la voûte sombre, j'épiai à droite et à gauche en quête d'un indice. Deux portes se faisaient face. Au-dessus de la porte de droite, s'étalait en lettres noires, sur le mur crépi à chaud, l'indication concierge. Je fis un pas. Une femme à cheveux blancs parut sur le seuil et s'enquit. Je dis d'un ton saccadé. « Je désirais parler à un officier d'état-major du 2e bureau. « Bien, monsieur, lequel ?»« Je n'en connais aucun, » avouai-je désespérément. « Eh bien, monsieur, » demandez l'officier de service aujourd'hui. Entrez dans le bureau en face, vous y remplirez une fiche rose. Je poussai la porte vitrée face à la loge et je pénétrai dans le bureau. Quel réduit! La fenêtre basse était protégée par des barreaux scellés. Sur une cheminée au marbre craquelé s'amoncelaient des paperasses poussiéreuses. Une table bancale, recouverte d'un drap vert pisseux, tout maculé d'encre, offrait dans un vieux classeur démantibulé des fiches de couleur rose séparées par un pointillé à déchiffrer et qui mentionnaient le nom et l'adresse du visiteur. Le but de sa visite, le nom de l'officier demandé, les motifs de cette demande, la date et la signature. Je m'assis sur une chaise branlante et tentai vainement, à l'aide d'un porte-plume colorié de rouge, à la plume pointée, trempée dans un encrier où stagnait de l'encre bourbeuse, de libeller une fiche. Peine perdue. Je ne réussis qu'à tracer des signes informes et à maculer la fiche de pâté déplorable. Heureusement, j'avais un stylographe, je libellai alors une seconde fiche. Tandis que je m'acharnais, la porte d'entrée du réduit livra à 3 reprises passage à des visiteurs en civil qui durent attendre que j'aie terminé pour remplir leur fiche. Enfin, je pus remettre ma feuille rose à la concierge qui l'emporta sans mot dire. J'attendis. Comme je tergiversais, morose et désolé, présentant une démarche inutile qui ne me laisserait pas la chance de jouer ma dernière carte. La porte vitrée s'ouvrit encore et un homme d'une 40aine d'années, à l'allure énergique et svelte, pénétra dans le réduit, tenant à la main le double de ma fiche. Je m'avançai vers lui. Nous étions seuls. À voix basse, il appela mon nom. Il me dévisageait. Je me présentai. « À votre disposition, monsieur, » répondit-il. « Nous allons causer immédiatement, mais dans un autre bureau. Suivez-moi. » Il fit quelques pas, ouvrit une porte basse matelassée qui révéla l'entrée d'un local étroit, tout en longueur, et dont la fenêtre scellée avait vue sur une cour noire. Le local était vide. Nous y pénétrâmes. Une table, 2 chaises, un fauteuil de cuir éraillé en constituaient l'ameublement primitif. L'officier m'invita à m'asseoir dans le fauteuil. « Je vous écoute. Soyez bref, » me recommanda-t-il. Je le fus. Je lui dis tout. La famille honorable dont j'étais issu, mes erreurs de jeunesse, mes déconvenues, ma ruine, l'état misérable auquel j'étais réduit, mon désespoir, ma résolution d'en finir avec la vie plutôt que de déchoir. Je lui dis enfin l'inspiration que j'avais eue en passant devant la porte du deuxième bureau de l'état-major, celle de venir solliciter un poste d'agent secret à l'étranger, où je puisse servir la France et la défense nationale. Il m'avait écouté sans un mot, sans un tressaillement, sans un geste. Malheureusement, répondit-il, les crédits dont nous disposons sont très restreints. Nous avons déjà beaucoup d'agents. Nous en engageons rarement de nouveaux, à moins qu'ils ne nous apportent quelque chose d'exceptionnel. Que nous offrez-vous ? Votre valeur personnelle est indéniable, mais que nous offrez-vous de concret ? Je parle l'allemand et l'italien. Le visage impassible de l'officier sembla s'éclairer. « Ça, c'est déjà quelque chose, » concéda-t-il. « Et si vous parliez en outre le turc, ce serait très intéressant. » Une joie folle m'inonda. « Mais je le parle, » clamai-je. « Je l'ai appris à l'école des langues orientales pour être dispensé jadis de 2 années de service militaire. Certes, je l'ai un peu oublié, mais en m'y remontant assidûment, je m'en souviendrai très vite. « Eh bien, » dit-il, « je crois alors que nous allons pouvoir vous employer. Voici pourquoi. Nous manquons dans le Proche-Orient, dans les pays balkaniques, d'agents spéciaux qui parlent le turc et l'italien. Une guerre des Balkans vient de finir, une autre va éclater sans doute. C'est de ce coin d'Orient que jaillira vraisemblablement l'étincelle qui provoquera la conflagration mondiale qui semble proche. Je me levai brusquement, et les larmes aux yeux, la gorge contractée d'émotion, je lui saisis les mains avec effusion. « Comptez sur moi, » dit-il. « Je vais faire tout le nécessaire. J'ai votre nom et votre adresse. Veuillez ajouter sur cette fiche la date et le lieu de votre naissance. D'ici 48 heures, j'aurai sur vous les renseignements de police indispensables. Revenez me voir après-demain à 5 heures. Vous demanderez le lieutenant-colonel Adam. » Il me salua, me reconduisit jusqu'au ventail de la porte cochère, me serra la main, cordialement. J'avais des larmes plein les yeux. Je franchis le seuil. Au soleil de la rue, je respirais avec extase. J'étais sauvé. Je revins le surlendemain. Le colonel Adam m'accueillit avec un bon sourire. Je compris que j'étais agréé. Je vis le chef d'état-major. Il me demanda de partir dans la quinzaine pour l'Albanie. J'acquiesçai. J'avais carte blanche, un crédit immédiat de 15 000 francs. On m'indiqua l'adresse où faire parvenir mes rapports secrets. Avec la vente de mes meubles, que je réalisais en hâte, j'étais riche de 25 000 francs. Une fortune. Un samedi, 14 jours après la minute où j'avais osé franchir le seuil redoutable de la porte du deuxième bureau, je prenais place dans un wagon-lit du Simplon Express via Milan et Bari. Un départ solitaire recèle d'ordinaire une amertume. On semble une épave dans le remous humain des tendresses étalées. Pourtant, je quittais Paris sans tristesse. J'avais raison, puisque ce jour a fixé ma destinée, ma carrière, la situation enviable que j'ai acquise. « Dis donc, de Martray, » interrompit un journaliste, « est-ce que les services du deuxième bureau sont toujours dans l'état de délabrement d'il y a 15 ans ? Cela n'a pas changé. C'est assez pénible. C'est ainsi. Mais ne m'interrompez pas. Je vais arriver à la partie de poker. » Chapitre 3e. Je parvins sans incident à Milan. J'étais contraint d'y demeurer 8 heures, avant de prendre un autre train me conduisant à Bari, petit port situé dans le talon de la botte de l'Italie. Je déjeunais et musais dans Milan, au hasard de l'infini des sites. Je dînais dans un hôtel voisin de la gare, parmi les fleurs et les verdures d'un jardin séduisant. À la table voisine de la mienne, un couple vint s'asseoir. Je l'observais. La femme était une Italienne au casque d'ébène et à la chair laiteuse, et qui semblait toute remuée d'intimité amoureuse à l'égard de son compagnon. L'homme était corpulent et marquait une 50aine d'années. La tête était belle, avec un regard profond, un masque oriental volontaire au teint basané, au profil d'oiseau de proie. Tête d'aventurier, pensais-je. Il détaillait l'anatomie de sa compagne avec une vulgarité de maquignon. La femme mangeait avec une ostentation toute italienne. À un moment, nos regards s'enchevêtrèrent. Ils sourirent comme des lèvres. L'oriental nous comprit, il pâlit. L'une de ses mains froissa sa serviette tandis que l'autre errait sur la nappe, se crispait sur la manche d'un couteau. « Bigre, pensais-je, pas commode le ruffian. » Je cessai le jeu. Je réglai bientôt mon addition et m'en fus vers la gare. Je gagnai les quais, avisai un coin dans le compartiment couloir, filai 100 pas devant le wagon de première. 5 minutes avant l'heure du départ, l'oriental et l'italienne surgirent sur le quai. Un porteur chargé de 2 volumineuses valises les accompagnait. L'homme plaça les valises dans le compartiment contigu au mien. Je fis semblant de ne rien voir et montai en wagon. Le sifflet du chef de gare retentit. L'homme à la face d'aventurier étreignit sa compagne, l'embrassa sur la bouche, sauta sur le marchepied du convoi qui s'ébranlait. Il eut vers la jolie fille un dernier geste tendre. La gare disparut. Le train courut à travers la campagne milanaise, dont les sites s'obscurcissaient sous l'ombre opaque du crépuscule. Je parcourais des magazines. Dans le couloir, l'oriental fumait un énorme cigare. Soudain, il fut sur le seuil de mon compartiment, eut à mon adresse un salut cérémonieux, tandis qu'il extirpait de la poche de son veston un étui à cigare chiffré d'or. « Voulez-vous me permettre, monsieur, de vous offrir un de ces habanes? J'espère que vous les trouverez dignes de vous. Je fais route jusqu'à Paris. Vous aussi, sans doute. Je rejoins mon pays, la Turquie. » J'ai envie de couper court à toute ébauche de relation avec un homme qui m'était antipathique. Je me ravisais. Je songeais à ma mission spéciale. Qui sait si le Turc ne me donnerait pas des renseignements utiles? J'acceptai le cigare. Son visage s'épanouit. Nous liâmes conversation. Il s'assit auprès de moi. Tout de suite, il se présenta. Colonel Ali Mustafa Bey, premier aide de camp de son Excellence Ibrahim Pacha, gouverneur de Scutari d'Albanie, retour d'une mission en Europe. La chance me faisait lier connaissance avec un homme puissant en Albanie et qui pourrait me faciliter ma mission. Je me présentai à mon tour et me fis passer pour un important propriétaire de crus bordelais se rendant en Albanie pour tenter d'y vendre ses vins. Tout de suite, le colonel s'offrit à me présenter à son Excellence Ibrahim Pacha, très amateur de Bordeaux français. Je remerciai, j'étais ravi. Nous bavardâmes. 3 heures plus tard, nous étions de vieux amis. Le colonel me devenait sympathique. Je commençai à bien augurer des débuts de ma mission. Chapitre 4e. À Bari, petit port en bordure de l'Adriatique, nous demeurâmes une journée. Le paquebot de la Compagnie maritime de navigation générale italienne quittait Bari pour De Razzo que le lendemain. Nous prîmes nos repas ensemble, le colonel et moi, et flânâmes au hasard de Bari. Au soir, nous échouâmes dans un petit bar américain orné de hauts tabourets d'acajou nickelés de cuivre. Des filles de toutes les nationalités, des hommes de toutes les races semblaient s'être donné rendez-vous là. La tour de Babel. Juché sur un des tabourets, un homme jeune, coiffé d'un fez rouge, buvait un cocktail. Le colonel et lui se saluèrent. « C'est le capitaine Ismail Pacha, de la garde du sultan, » me dit à l'oreille le colonel. « Il est très puissant en Turquie. Je vais vous présenter. Il pourra vous être utile. » Les présentations faites, nous demeurâmes assez longtemps tous trois dans ce bar. Le capitaine Ismail était très séduisant, d'une courtoisie délicate. Il parlait d'une voix placide et douce. Lui aussi prenait le paquebot le lendemain pour rentrer en Turquie. Nous convînmes de faire la traversée ensemble. Décidément, le hasard s'affirmait en ma faveur. Avec mes 2 nouvelles relations, ma mission allait se trouver singulièrement facilitée. Le paquebot blanc venait de quitter la rade italienne. L'onde était tendre et tiède. Assis sur le banc des premières, mes amis ottomans et moi regardions s'évanouir les silhouettes des maisons de Bari. Tout se fondit dans une brume flottante, et ce ne fut plus que la mer infinie, dont le bleu limpide se confondait avec l'azur du ciel. Le colonel Ali Mustafa s'était accoudé au bastingage, il dit. Et il en sera ainsi pendant les 14 heures de la traversée. Du ciel, de l'eau et du soleil. C'est monotone. Que pourrions-nous inventer pour nous distraire? Il eut un silence. Le colonel me demanda soudain. Êtes-vous joueur, cher monsieur? Je tressaillis. Hélas, je l'étais. Je répondis évasivement. Je jouais de temps à autre. Alors vous êtes joueur? Ismail Pacha aussi, et moi donc, si nous faisions un poker. J'eus un geste vague, Ismail déclara. À 3, c'est bien ennuyeux. Je vais trouver deux partenaires, assura le colonel. Déjà, il avait disparu vers les cabines de première classe. C'est un joueur terrible, me confia Ismaël Pacha. Le colonel a joué dans tous les pays du monde. Mais le colonel Ali Mustapha, la face éclairée d'un large sourire, revenait en compagnie de deux passagers. Il nous les présenta. Un commerçant en bois de nationalité allemande, commun, trapu et court. Un armateur italien de Durazzo, au teint mat, à la silhouette alerte. Tous deux avaient accepté d'enthousiasme l'offre du colonel. Déjà, celui-ci s'affairait auprès des domestiques, faisait installer une table sur le pont à l'ombre d'un grand parasol et décacheta de jeux de cartes neuves. Il exultait. Nous prîmes aussitôt place dans des fauteuils d'osier disposés autour de la table recouverte d'un tapis vert. J'étais placé entre le capitaine Ismaël et le commerçant allemand. Face à nous se tenaient le colonel et l'armateur italien. Le colonel enlevait des yeux les cartes basses, à l'exception des 4-5 et des 4-6. « Nous jouons en 40 cartes, n'est-ce pas ? » interrogea-t-il. « C'est le jeu le plus agréable. » Nous acquiesçâmes. Il continua. « Nous jouons à 300 francs de cave et de complétage. » « Vous connaissez tous le complétage ?»« Nous le connaissions tous. C'est la forme la plus dangereuse du jeu de poker, celle qui entraîne aux plus grosses différences pécuniaires. » J'avais les mains froides. Je cédais néanmoins par amour-propre. Des regards me dévisageaient. La partie commença. Il était 9 heures quand nous l'amorçâmes. À midi, on nous appela pour le déjeuner. Nous ne nous étions pas rendus compte du temps écoulé. Magie du jeu. Je gagnais. J'avais repris toute ma maîtrise de joueur et mon empire sur mes nerfs. Je me sentais le plus fort de nous tous à ce jeu, hormis, peut-être, le colonel Ali Mustapha, que la chance ne favorisait pas. Il perdait 8 000 francs. J'en gagnais 7. Et l'armateur italien 3 000. Le capitaine Ismaël et l'allemand perdaient la différence. Nous descendîmes à la salle à manger. Chapitre 5e. Notre repas expédié, nous remontâmes sur le pont. La chaleur était accablante. Le grand paquebot blanc semblait la cible unique vouée à l'incandescence du soleil entre ciel et eau. Il y avait du mérite à ne pas faire la sieste. Mais nous devions une revanche au colonel. Et il ne restait plus que 5 heures de traversée. Tout de suite, la partie s'accusa plus virulente que dans la matinée. Ali Mustapha était particulièrement agressif, risquait des coups de bluff audacieux. Il en réussit quelques-uns. Au reste, la chance lui demeurait contraire le plus fréquemment. Vers la fin de l'après-midi, il eut une série de coups malheureux. Il s'énerva davantage. À 18 heures, le colonel perdait 25 000 francs. Dans une heure, nous serions à Durazzo. Je gagnais 15 000 francs. Les autres joueurs au prorata se partageaient les dépouilles du colonel. Mon cœur battait de joie. Il me semblait impossible de perdre désormais. Et je trouvais le jeu une belle chose. Le soleil déclinait. Dans une brume d'améthyste, les côtes albanaises se profilaient au loin. Un pot très important venait de s'accumuler. Il y avait 1 500 francs sur le tapis, et il était nécessaire d'avoir 2 as pour l'ouvrir. L'Allemand avait donné les cartes. C'était à moi de parler en premier. D'un rapide coup d'œil, je vis mon jeu. J'avais 2 paires aux as par les valets. Beau jeu, en présence d'un pot de cette importance. Malgré mes résolutions de prudence, je n'hésitais pas à ouvrir à hauteur du pot pour chasser les adversaires possibles. Je mis donc 1 500 francs sur le tapis. Ismaël et l'Allemand renoncèrent. L'armateur tint ma mise. Quant au colonel, non seulement il tint mes 1 500 francs, mais il me relança de 3 000 francs. Je pensais aussitôt. Il bluffe encore. Il est bien ennuyeux, mais je suis forcé de tenir sa relance. Je tins donc le coup. L'Italien fit de même. Avant d'aller aux cartes, il y avait 15 000 francs d'enjeu sur le tapis, le plus gros coup de toute la partie. L'Allemand donna les cartes réclamées. 1 pour moi, 2 pour l'armateur. Le colonel, après une légère hésitation, en prit 3. Le bluff était prouvé. Le colonel s'était décidé à prendre 3 cartes et à ne pas masquer plus longtemps son jeu quand il avait vu que l'Italien en prenait 2 et avait un brelan servi. L'homme dangereux était l'armateur. Je filai mon jeu. J'eus un petit choc au cœur. La carte qui m'avait été donnée était un as. J'avais fou le as. Jeu rare, battu seulement par le poker. La chance continuait à me sourire, prodigieuse. Immédiatement, j'attaquai et fis 3 000 francs. L'Italien tint la somme, sans plus. Quant à l'extraordinaire colonel, non seulement il tint mes 3 000 francs, mais il relança encore de 3 000 francs. Je m'énervais. « Il m'agace, » pensais-je, avec son bluff continuel. « Ça va lui coûter cher, cette fois je l'aurai. » Avec sérénité, je tins sa relance et surlançai à mon tour de 3 000 francs. « Je passe, » déclara à regret l'Italien qui jeta son jeu. Nerveusement, le colonel Ali Mustapha tint ma relance et relança encore de 3 000 francs. À ce moment, la cloche du paquebot sonna, signalant la côte proche, conviant les passagers aux apprêts du débarquement. Une vigie annonça la terre. C'était le dernier coup de la partie. Je ne réfléchis plus. J'étais sûr que le Turc bluffait. Je tins sa relance et relançai encore de 3 000 francs. Le colonel Ali Mustapha déclara très vite. « Je tiens vos 3 000 et je fais 5 000 francs de mieux. Je n'ai pas la somme suffisante sur moi. Je vous la donnerai tout à l'heure si je perds le coup. » Cette fois, j'eus peur. Où mon imprudence m'avait-elle conduit ? Non seulement si je perdais le coup, je ne serais plus gagnant, mais je serais perdant de 10 000 francs de mes propres deniers. Les 10 000 francs de mes meubles. Ah, fou, triple fou, incorrigible. Je sortis l'argent de mon portefeuille et déclarai. Je tiens les 5 000, mais je ne relance pas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Il y avait 46 000 francs sur le tapis. J'étalai mon jeu et annonçai. J'ai foule aux as. Le colonel Ali Mustapha jeta un vague regard sur ses cartes. Ils reposaient nerveusement leurs deux roues sur le tapis sans les montrer. Il se leva d'un jet, le visage décomposé, eut alentour un regard de bête aux abois. Un instant, ce regard halluciné se fixa sur les masures basses de Durazzo, la côte albanaise, puis il revint vers la table de jeu, erra sur moi, se posa sur le capitaine Ismaël, lointain et impassible. Cette scène n'avait pas duré une minute. Le colonel eut un rictus et articula péniblement. « J'ai perdu, monsieur. » Inutile de jouer encore, nous sommes arrivés. Je vais chercher dans ma cabine les 5 000 francs que je vous dois. Sans attendre une réponse, il se dirigea d'un pas saccadé vers l'escalier des cabines et les descendit en titubant. Joli coup, prononça la voix paisible d'Ismaël Pacha. Le coup de grâce pour ce pauvre colonel. Il est vraiment bien imprudent. Au jeu comme dans l'existence du reste. Je ramassai les enjeux, le cœur battant de joie tandis que les autres me félicitaient. Je gagnais 35 000 francs. Mes partenaires devaient se partager 10 000 francs de gains. Le colonel perdait tout. Je prononçais de vagues paroles de regret que je n'éprouvais pas. « C'est le jeu, » conclut philosophiquement Ismaël. « Je serai sans doute forcé de prêter de l'argent, colonel. » Et il eut un bizarre sourire. Le crépuscule venait. Le paquebot manœuvrait pour entrer dans le port. J'enfouissais les billets de banque dans mon portefeuille. Tandis que mes compagnons de jeu se levaient pour gagner leur cabine et surveiller leurs bagages. J'allais les imiter quand un matelot vint à moi une enveloppe à la main. « Vous êtes bien, monsieur de Martray ? » interrogea-t-il. Je répondis affirmativement. « Le passager de la cabine numéro 5 m'a chargé de vous remettre cette lettre. »« Le passager de la cabine numéro 5 ?» balbutiai-je sans comprendre. « C'est la cabine du colonel, » me dit Ismaël. Tandis que le matelot s'éloignait, je décachetai l'enveloppe et lus à peu près ceci. « Cher monsieur, toutes mes excuses de ne pouvoir vous remettre inclus les 5 000 francs que je vous dois. Je ne les ai pas. J'ai tout risqué et tout perdu. Soyez assez bon pour ne pas m'en vouloir et que la chance continue à vous être propice. Adieu, colonel Ali Mustapha Bey. » Je ne comprenais pas. Je tournais et retournais machinalement la lettre entre mes mains inquiètes. Je sentis peser le regard interrogateur d'Ismaël Pacha. « Tenez, » dis-je en lui tendant la lettre, « lisez, c'est incompréhensible. Pourquoi le colonel ne m'a-t-il pas fait cet aveu de vive voix ?» L'aide de camp du sultan parcourut la lettre. Alentour ne se percevait que le bruit monotone de la machine du paquebot et le clapotis des vagues contre la coque. Parmi le silence, un coup sec claqua, déchira l'air. J'eus un sursaut. Ismaël Pacha avait redressé sa tête fine. « Tiens, un coup de revolver. » Et nos regards se scellèrent dans une angoisse. Mais d'en bas, des cabines, une rumeur, un brouhaha, des appels, des exclamations montaient vers nous. Un homme gravissait l'escalier 4 à 4, le visage effaré, courait vers nous. C'était l'armateur italien. Il clama en gesticulant. « Venez, venez vite! Le colonel vient de se suicider !» Ismaïl Pacha eut un haut-le-corps, laissa choir à terre la lettre, s'élança vers l'Italien, échangea quelques mots avec lui, descendit en courant l'escalier des cabines. J'étais demeuré stupide et incertain. Machinalement, je songeai à reprendre la lettre du colonel échappée aux doigts d'Ismaïl. Coïncidence étrange, cette lettre était retombée par hasard sur les cartes de poker demeurées étalées sur la table de jeu, sur les cartes roses du colonel qu'il avait posées sur le tapis. Ma main tremblante se saisit de la lettre de l'homme qui venait de se suicider. En la prenant, je retournai involontairement une des cartes de jeu de l'officier ottoman. C'était un roi de cœur. Une curiosité de joueur me saisit à cet instant tragique. Je voulus me rendre compte avec quel jeu le colonel avait perdu la somme qu'il n'avait plus et qu'il avait acculée à son geste désespéré. Vite, je retournai les cinq cartes. Et je demeurai bouche bée, les yeux hagards. Étalé devant moi, le jeu du colonel me révélait quatre rois, poker de rois. Je pensais rêver. Je me penchai sur les cartes, nul doute possible. Ali Mustapha Bey avait un jeu supérieur au mien, un poker. C'était lui qui avait en réalité gagné le coup décisif. C'est moi qui avais perdu. C'était moi qui aurais dû payer. C'était moi qui aurais pu être acculé au suicide. Le mystère était si invraisemblable que je sentais ma raison vaciller. Tout de suite, j'eus l'impulsion de me précipiter vers les cabines, de courir au malheureux encore vivant peut-être et de clamer ma découverte insensée. Un instinct m'immobilisa. Je réfléchis. Quelque sympathie que puisse avoir pour moi le colonel Ali, on ne favorise pas ainsi au jeu un adversaire sans des raisons profondes. L'officier avait un coup gagné, une grosse somme à portée de sa main. Et il avait choisi le mensonge et le suicide. Quel secret si redoutable qu'il avait préféré payer et mourir. Si le colonel était mort, son secret n'appartenait qu'à lui. Telle avait été sa volonté. Sans le hasard de l'envoi de sa lettre sur les cartes et sans ma curiosité, je n'eus jamais soupçonné son jeu. Alors, hâtivement, je brassai les cartes. Je dissimulai les quatre rois du colonel parmi les autres cartes étalées, brouillées, confondues. Maintenant, nul ne pourrait savoir. « J'ai terminé, » s'interrompit le conteur. « Depuis cette aventure, je n'ai jamais voulu jouer au poker et n'y jouerai plus jamais. »« Mais votre histoire ne finit pas, » s'exclama l'un de nous. « Et d'abord, le colonel était-il mort ? Tout ce qu'il y a de mort ? Enfin, » déclara Barfleur, « vous avez quand même su pourquoi cet homme vous a fait cet extraordinaire cadeau et pourquoi il s'est tué ? Aucune certitude absolue. Voici ce que je crois être la vérité probable, et encore. » Le colonel Ali Mustapha Bey était un aventurier d'envergure. Soldat brave jusqu'à la témérité, il était dévoré de la passion du jeu et des femmes. Ses raptes, ses viols, ses débauches de harem étaient la terreur des femmes albanaises. Les filles qui tentaient de résister étaient bâtonnées, fouettées, emmenées dans des harems de Santari. Leur destin devenait alors inconnu. Jamais on n'entendait plus parler d'elles. Le gouvernement turc fermait les yeux sur les débauches du colonel qui avait sauvé la vie à l'un des fils du sultan. Mais la fureur amoureuse d'Ali Mustapha s'exerça un jour sur deux fils serbes, enlevés, violés, martyrisés. Il y eut un grave incident diplomatique. On éloigna le terrible colonel. On le chargea d'une mission en Europe. Achat de canons, de fusils, de mitrailleuses. Ali Mustapha Bey quitta l'Albanie. Mais ses vices le perdirent en Europe. Il dilapida au jeu et en débauche l'argent à lui confié pour les achats d'armes. Cette fois, Constantinople s'irrita. On le rappela d'urgence à Stamboul et on l'inculpa d'escroquerie et de forfaiture. Ali Mustapha tenta de ne pas revenir. Malheureusement, il commit en Europe diverses indélicatesses qui le firent expulser de partout, même d'Italie, son dernier refuge. Quand je le rencontrai à Milan, Ali Mustapha regagnait Bari et Durazzo, contraint et forcé sous la surveillance de la police italienne. À Bari, un officier d'ordonnance du sultan, le capitaine Ismaïl Pacha l'attendait pour le ramener avec lui en Turquie, où c'était le conseil de guerre, la dégradation militaire, la réclusion dans une enceinte fortifiée. Il a préféré la mort. « Si bien, dit quelqu'un, que les deux Ottomans vous avaient joué la comédie de la rencontre fortuite au bar, cela me semble certain. Ce qui demeure malgré tout inexplicable, c'est le cadeau qu'il vous a fait au poker. Je l'explique à peu près ainsi. Il se savait condamné. Déchu, prisonnier, perdu. Il a voulu demeurer le maître de son destin et mourir élégamment. Soit, Mais pourquoi avoir amorcé cette partie de poker sur le paquebot? Parce qu'il était passionnément joueur. Il a voulu éprouver la suprême jouissance d'une dernière partie de cartes. Et pourquoi vous avoir donné, gagné? Parce qu'il a voulu, pour sa propre satisfaction, un geste de suprême élégance. Ça, c'est bien paradoxal. Mais non, c'est dans le caractère de l'homme. Rappelez-vous toutes les circonstances dernières. C'est le dernier coup de carte. Durazzo est visible. Énigmatique et implacable, Ismail Pacha est auprès de lui en surveillance. Le colonel est déjà prisonnier. Déjà, il a résolu son suicide. Mais soudain, la chance rebelle lui sourit au dernier coup. Le colonel s'anime, vibre, jouit une dernière fois. Il est magnifiquement heureux. C'est moi qui, en tenant sec sa relance et en abattant mon full aux as, ai écourté ses dernières minutes de joie. Je verrai toujours sa fugitive hésitation, son regard halluciné vers Ismaël impassible, son regard de bête traqué vers la côte albanaise. Une seconde, il a dû avoir la pensée d'abattre son jeu triomphal, de rafler la somme, et qui sait, de tenter peut-être d'échapper encore à son destin. Puis, avec le fatalisme oriental, il s'est dit « à quoi bon ?» Les quelques milliers de francs qu'il avait en poche ne l'empêcheraient pas d'être jugé et incarcéré. Cela, jamais, c'était un homme à panache. Il a fait, à mon égard, un geste chevaleresque, et ce faisant, il a dû éprouver encore une secrète jouissance. Vous êtes un vénard. C'est à cet aventurier que vous devez votre carrière et vos succès, mon cher de Martrait. Je n'en disconviens pas. Aussi, je souhaite que l'âme pécheresse du colonel Ali Mustapha Bey soit la toute bienheureuse au paradis d'Allah. Des rires fusèrent, et sur cette oraison funèbre, nous nous séparâmes. Ainsi s'achève une partie de poker par Henri de Golen.